RCF.
Aujourd'hui, on vous emmène à La Baronnière. La Baronnière, c'est une propriété qui se trouve sur la commune de La Chapelle-Saint-Florent, tout près de Saint-Florent-le-Vieil. Alors, on connaît bien en Anjou Saint-Florent-le-Vieil parce que c'est l'histoire des guerres de Vendée. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, puisque ici même, à La Baronnière, nous sommes dans l'ancienne propriété du marquis de Bonchamp, qui aujourd'hui appartient à la famille Boucheron. Et je suis à côté d'Anne du Boucheron. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, on va pas parler des guerres de Vendée aujourd'hui, on va parler d'un endroit complètement inattendu et extraordinaire qui s'appelle Courrossé. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un site classé pittoresque qui a été acheté par mon grand-père Ernest Arnoux-Rivière dans les années 1880. Après la construction du château de la Baronnière, c'est un lieu qui est très escarpé, qui est dans les Mauges, donc on est dans les Mauges, un lieu très escarpé, et lorsqu'on arrive à Courrossé, on voit une énorme croix qui domine tout ce cirque. Ce cirque, est constitué par des méandres que l'Èvre organise. L'Èvre se jette dans la Loire, c'est une petite rivière qui se jette dans la Loire, et au bas de cette croix qui a été inaugurée en 1889, vous avez un lacet qui a été fait en 1892, des escaliers qui descendent, et c'était à l'époque l'engouement de Sainte-Bernadette, de Lourdes, de la grotte. Donc évidemment, le curé Poissonneau, qui était un homme avec beaucoup de caractère, part à Lourdes, et avait, après une quête des habitants de la chapelle Saint-Florent, des paroissiens, récolte 289 francs à l'époque et achète une grande vierge. Et on ne sait pas où placer cette vierge. Et tout commence là, cette grotte va commencer avec cette histoire.
Alors on va descendre, donc vous parlez de cette croix, hein, et on est devant cette croix, elle surplombe de façon extraordinaire, on est vraiment, c'est un escarpement, hein, il y a vraiment, je ne sais pas combien il y a de mètres de hauteur, mais le coup d'œil est absolument extraordinaire, la vue qu'on a de là-haut est magnifique. Alors il faut descendre cet escalier, et justement pour aller découvrir cette grotte de Lourdes, on va aller découvrir ça de plus près, parce que c'est un endroit extrêmement fréquenté. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent ici chaque année.
On dit qu'il y a 30 000 personnes qui visitent cet endroit, mais c'est un endroit que moi je suis propriétaire de ce lieu, mais mon grand-père avait déjà ouvert cet endroit pour la prière, pour que les gens viennent se recueillir auprès de la grotte. D'ailleurs, il y a eu des miracles avec cette vierge qui a été installée en bas. On verra après par la suite. Mais les villageois avaient étaient tout à fait libres de venir ici. Et l'abbé Poissonneau a voulu absolument faire une grotte. Voilà, c'était l'idée. Donc mon grand-père Ernest Arnoux-Rivière a été d'accord. Et maintenant on est obligé de le laisser ouvert au public. Donc on dit qu'on a 30 000 visiteurs. Maintenant, nous, c'est la mairie qui entretient le site parce que c'est trop important. Mais par contre, quand on fait notre assemblée générale, moi, j'exige qu'il n'y ait aucune construction sur ce cirque naturel. Je veux vraiment que ça soit dans les Mauges un cirque extrêmement naturel. C'est-à-dire on me demande de faire des toilettes, mais moi, je ne veux pas. Il n'y a pas de friterie, il n'y aura pas de crêperie, il n'y aura pas de parking. En haut, ma mère a donné un terrain pour juste les pique-niques, juste à l'entrée. Mais moi, c'est mon souhait. Je ne veux qu'il n'y ait aucune construction dans cet endroit.
Et voilà. C'est ça qui permet de le garder tout à fait intact. Et c'est vraiment extraordinaire. On va descendre dans cette grotte, on va faire le chemin de croix un peu à l'envers finalement pour aller la découvrir.
Ben, je ne sais pas, tu vois ça, je devrais savoir. Je ne sais pas combien il y a de dénivelés. Alors là, ils viennent de mettre les petites croix en bois.
Oui, c'est un chemin de croix qui vient d'être restauré.
Oui, il vient d'être restauré. L'inauguration était l'année dernière. Et la Fondation du patrimoine a donné une enveloppe parce que malgré la déchristianisation, les gens tiennent beaucoup à leur chemin de croix finalement.
Il est encore prié, il y a encore des gens qui font le chemin de croix.
Alors ça, je ne peux pas vous dire, autrefois, il y avait la fameuse descente au flambeau du 15 août qui était magnifique. On voyait tous ces flambeaux évoluer du haut de la croix, toute cette foule qui allait jusqu'à la grotte. Et maintenant, évidemment, tout ça, c'est un petit peu abandonné. Moi, j'aimerais bien refaire ça, mais on a eu une chose incroyable. Il y a un mois, notre nouveau curé de paroisse a demandé à ce qu'on fasse une messe en bas, dans la grotte. Et on a fait cette messe en pleine nature avec une dégoulinade d'un magnifique rosé, un banksae, un rosier blanc. Qui descendait de la croix. C'était une vague de roses blanches et on était tous en bas. Et la messe était... Donc moi, j'aimerais beaucoup, évidemment, qu'on fasse, que ça revive un petit peu.
Donc qui sait, peut-être qu'un jour ici, le 15 août, il y aura une procession au flambeau.
Oui, on aimerait bien refaire une procession au flambeau. Alors on peut descendre. Voilà, là, c'est le petit point de vue, là. Oui, c'est un endroit qui est méconnu, mais moi, je suis très contente que ça ne soit pas, au fond, si connu que ça. Voilà. Alors là, c'est le petit bief qui là-bas, vous avez le barrage. Et puis là, il y a un petit bief qui est arrivé près du moulin parce que le meunier était déjà là en 1800. Le village est juste là sur la gauche.
Le village est encore habité?
Non, le village est en ruine. Et justement, c'était un des sujets pendant nos réunions, nos assemblées générales, parce que beaucoup de gens me demandent ce qu'on va faire du village. Alors, genre peut-être au radour, c'est-à-dire sauvegarder les murs. Moi, je veux pas qu'on rase les murs à 2 mètres. Je voudrais qu'on conserve tous les pans de murs, qu'on enlève le lierre déjà. Mais le village est sorti du lierre il y a 2 ans, parce que les retraités de la chapelle Saint-Florent qui entretiennent le jeudi, ils viennent une fois par mois, ils entretiennent le site. Ils sont des amoureux du site. On a déjà commencé à enlever quelques lianes de lierre et vraiment on voit que c'est un village. C'est assez amusant. On voit des façades, il y a une quinzaine de maisons et on voit que c'est un village.
Et bon, on va regarder tout ça de plus près.
Voilà. Alors tout ça, les petits ex-votos, ça correspond vraiment, parce que dans le livre que je relisais avant votre arrivée, il y a vraiment eu des enfants qui ont été soignés, des paralysés, qui, grâce à cette Vierge, vous voyez cette Vierge qui...
Ah oui, on la voit là, en haut.
Alors, cette fameuse Vierge qui a été achetée par l'abbé Poissonneau à Lourdes, quand elle est arrivée avec sa caisse, elle était tellement grande que finalement, on ne pouvait pas la mettre dans l'église. Et puis finalement, elle n'avait pas lieu d'être dans l'église. Alors on a voulu la mettre à Roche-Quibois, mais à l'époque, c'était les panetons à la Guérinière. Et elle ne tenait pas tellement à ce qu'on mette cette Vierge à Roche-Quibois sur l'Èvre, de l'autre côté, parce qu'elle disait que ce serait pas, c'était dangereux d'y passer. Roche-Quibois, c'était trop. Donc finalement, la Vierge est arrivée ici à Courrocé. Tous les habitants ont formé cette grotte, avec l'accord de mon grand-père Ernest Arnaud-Rivière. Et tous les jours, il y a quand même toujours des gens qui descendent et qui prient. Même si on est à une époque où les gens prient, enfin, il y a moins d'engouement pour les grottes et Sainte Bernadette et les Vierges. Mais on a toujours un public ici. On a 30 000 visiteurs donc, qui passent chaque année. Et il y a quelqu'un du village au-dessus qui vient relever le tronc tous les lundis. Il vient relever le tronc et il y a toujours des petites pièces dans le tronc. Et vous voyez, là, il y a deux petites bougies qui ont dû s'éteindre, mais elles ont été mises il n'y a pas longtemps.
Oui, puis l'hôtel est fleuri, la cire dégouline sur les chandeliers, donc on voit que c'est un lieu qui est fréquenté.
Tous les lacets qui ont été faits en 1892, ça a représenté 101 jours de travail de tous les gens du coin. Voilà, et quand ils ont fait ces lacets, il y a une histoire incroyable, c'est que il y a eu beaucoup de combats au moment des guerres de Vendée, et on a retrouvé un site, au moment où on a creusé, bourré de squelettes. Et ça, c'est juste au-dessus de la grotte, bourré de squelettes. On va chercher donc le baron Ernest Arnouvière, mon grand-père, et le baron va chercher évidemment l'abbé, le curé Poissonneau. Et Poissonneau, mon grand-père, demande « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ces ossements quand même dans le cimetière ?» Et à ce moment-là, Poissonneau répond « Oh, le cimetière ne va pas être assez grand parce que moi, je ne peux pas récolter tous les squelettes de toute la région. » Puis en plus, ce ne sont pas des chouans, ce sont des bleus. Non, ben pas du tout, justement. Non, voilà.
Alors, j'ai dit tout à l'heure en introduction que c'est ici, à quelques centaines de mètres, que les Vendéens sont venus chercher leur général Bonchamp. Mais je dis que, bon, voilà, ici, c'est une grotte de Lourdes, il n'y a pas de lien. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un lien entre cette dévotion qu'ont les gens ici régulièrement et ce que vous venez de raconter sur les guerres de Vendée?
Ah oui, on est dans une région, forcément, avec la Révolution, c'était quand même... la Révolution, c'était le roi et la religion, hein, évidemment. Donc, c'était précieux. On touchait à la religion, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces combats si forts dans notre région et dans les Mauges. Ça a été très, très, très violent, les combats, mais très fort, très violent. Donc, la Baronnière est un haut lieu de ces combats, bien entendu.
Alors, il faudra qu'un jour on revienne pour parler de cet autre aspect de cet endroit complètement extraordinaire. Sur l'autel, on voit deux petites bougies toutes frêles, mais qui montrent que sont tous les jours, en fait, il y a quelqu'un qui vient prier ici.
Oui, tous les jours, on pense qu'on est toujours seul dans ce site. Et en fait, bon, le dimanche, bien entendu, il y a beaucoup de monde. Les fêtes, les jours fériés, bien. Mais quand même, tous les jours, il y a des gens qui passent ici, même l'hiver.
Et alors, on voit ici une source.
Dans le creux de la grotte.
Dans le creux de la grotte, qui évidemment rappelle la source de la grotte de Lourdes. Et on voit la roche qui est complètement humidifiée. Il y a une source.
Vous voyez tous les ex-voto, voilà, à la mémoire. Voilà, monsieur Poissonneau, donc curé de la chapelle, par son zèle, ses coteaux bénissent le Seigneur et chantent le nom de Marie. Voilà, ça c'était une plaque qui a été posée donc à l'époque. Et puis là, des merci, merci, merci partout. Reconnaissance, merci, reconnaissance, merci, merci. Donc là, il y a 1890, écrit à la main, une petite pierre pour un remerciement. Donc il s'est sûrement passé quelque chose en 1890. Voilà.
Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour au village, rapidement ?
Alors, on va aller au village. Il reste un vestige. Autant le village, maintenant, est en ruine, mais vous avez ce grand tuya qui est toujours là. Et qu'on voit sur toutes les cartes postales de la grotte de Courrossé. Alors, je vais vous faire voir, j'ai un livre sur les cartes postales et vous allez voir, on va rentrer dans le village par une. Là, ici, on va avancer tout à fait à gauche du tuya et là, on va passer par un passage ici. On voit encore le passage sur la photo, mais évidemment, il est démoli. À gauche, il y avait le village avec un four qu'on va voir, qui est encore dans les ruines. À droite, il y a le moulin au bord du bief, mais le moulin, on voit encore un pan de mur. Et après, il y avait une quinzaine de maisons. Et voilà, je vous fais voir, on voit la grotte là-haut, la croix là-haut. Et là, vous avez le moulin, la photo du moulin.
Alors, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais voilà, on voit qu'il y avait un véritable village ici, au pied de cette petite falaise, et qui maintenant est complètement en ruine.
Oui. Voilà. Là, il y a un four ici. Il y a trois fours dans le village de Courrossé. Et alors, malheureusement, il y a une petite venelle derrière le village, mais c'est tellement englué de végétation et on ne peut plus du tout y avoir accès. Alors moi, j'aimerais bien qu'on mette d'abord un petit écriteau village de Courrossé en bas. Et j'aimerais bien qu'on dégage toutes ces ruines.
Donc là, on voit beaucoup de végétation, mais en fait, derrière la végétation, on voit vraiment qu'il y a encore plein de constructions qui sont vraiment au dos de la roche, en fait. Hein.
Oui, contre la colline. Vous avez un premier rang de maisons, puis un deuxième rang derrière, mais on ne voit plus du tout parce qu'il y a des noyers. Alors, cette année, on va abattre le noyer qui est là-dedans. On va essayer de décoller le lierre. Ici, il y a un petit escalier qu'on aurait voulu rénover. Il y avait une petite alcôve dans un mur où il y avait une petite vierge. Évidemment, ça a été volé. Et les habitants sont partis parce que, en fait, à ce moment-là, il y a eu l'impôt sur les toitures. Donc les gens ont commencé à défaire leurs toitures et, en fait, sont partis. Ma grand-mère, qui maintenant était née en 1907, ma grand-mère venait ici avec sa mère chercher les fermages des habitants du village de Courrossé.
Eh bien voilà, si vous êtes amateur de spiritualité, vous pouvez venir prier devant cette grotte de Lourdes. Si vous êtes amateur de nature et de beaux paysages, il y a ici sans doute un des plus beaux endroits de l'Anjou. Et si vous aimez l'histoire, eh bien voilà, vous aurez aussi ce village qui va, on l'espère, bientôt retrouver dans quelques années, peut-être pas sa jeunesse, mais en tout cas revivre. Merci beaucoup Anne Dubucheron de nous avoir guidés dans cette visite.